Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un château en Provence qui a, disons, une double personnalité. D'un côté, on a une forteresse militaire vraiment impitoyable, et de l'autre, un palais somptueux, un lieu de fête et de culture. La question, c'est comment est-ce qu'un seul et même endroit peut être à la fois un symbole de guerre et un temple de l'art? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer ensemble.
Allez, imaginez un peu la scène. On est à Tarascon, sur les rives du Rhône, et juste devant nous se dresse l'un des châteaux médiévaux les mieux conservés d'Europe. Une masse de pierre qui a l'air complètement imprenable, et en même temps, comme on va le voir, qui est habitée par des siècles et des siècles d'histoire. C'est une invitation à un véritable voyage dans le temps.
Plongeons donc dans la première vie du château. Parce qu'avant de devenir un palais ou un musée, Tarascon, c'était avant tout une machine de guerre, une sentinelle de pierre redoutable, postée à une frontière absolument cruciale. Ce qui est vraiment fascinant avec ce château, c'est son emplacement. Il est planté là, au bord du Rhône. Et à l'époque, le fleuve, c'était la frontière, purement et simplement, entre la Provence et le Languedoc. Et juste en face, sur l'autre rive, qu'est-ce qu'on a? Le château de Beaucaire. Imaginez un peu la scène, deux géants de pierre qui se font face, qui se toisent en permanence, de vrais rivaux, chacun gardant son territoire. Et attention, ce n'était pas juste pour le symbole. Le Rhône, à cette époque, c'était une véritable autoroute du Moyen-Âge, un axe vital pour le commerce, mais aussi pour les armées. Donc, contrôler ce passage, c'était tout simplement détenir un pouvoir immense sur toute la région.
Mais l'histoire d'un lieu comme celui-ci n'est jamais figée. Bien au contraire, on va maintenant aborder la première grande transformation de Tarascon, un changement radical qui va le faire passer de l'ombre de la guerre à la lumière des arts.
Juste pour le contexte, un premier château existait déjà autour de l'an 1000. Bon, il a été détruit, mais il a été magnifiquement reconstruit au XVe siècle par les ducs d'Anjou. Et c'est cette reconstruction qui va absolument tout changer.
Le personnage clé de cette métamorphose, c'est lui. Le fameux roi René, un prince qu'on pourrait presque qualifier de pré-Renaissance, qui adorait les arts et les lettres autant que la stratégie militaire. C'est vraiment lui qui va insuffler une toute nouvelle âme à cette forteresse, pour la transformer en un centre de vie et de culture super vibrant.
Et cette transformation, eh bien, on la voit partout. L'architecture militaire, très austère, commence à se mélanger avec les nouvelles élégances de la Renaissance. Les murs, autrefois froids, se parent de sculptures d'animaux, réels ou fantastiques. Et les cours, qui ne voyaient que des soldats, résonnent maintenant de fêtes somptueuses et de tournois. Le château devient une sorte de théâtre, où l'on montre sa puissance, bien sûr, mais aussi son raffinement.
Mais, comme souvent dans l'histoire, les âges d'or ne durent jamais éternellement. Le destin du château va prendre un virage à 180 degrés, un tournant bien plus sombre.
C'est la question qui va complètement changer le sort de Tarascon. Une fois que la Provence est rattachée à la France, son rôle de gardien de la frontière, il disparaît. Le château devient une magnifique coquille vide, militairement inutile. Et la réponse à cette question, elle est brutale. Le château, dont les murs si épais étaient faits pour protéger ses habitants, va maintenant utiliser ces mêmes murs pour enfermer. Il devient une prison d'État. Le symbole de la protection devient un instrument d'enfermement. C'est un retournement de situation assez incroyable.
Et attention, cette période sombre, elle va durer très très longtemps. Il faut attendre 1926, oui, 1926, pour que le château arrête enfin d'être une prison. Ça fait quand même plusieurs siècles passés dans l'ombre et en silence, assez sinistre. Et cette histoire, elle est restée gravée dans la pierre, au sens propre du terme. Sur les murs, on peut encore voir les traces laissées par les prisonniers. Ces graffitis, ce sont des témoignages incroyablement poignants. C'est la voix silencieuse de tous ceux qui ont vécu enfermés ici.
Bon, quittons un peu le stone des pierres, si on veut bien, pour s'intéresser à l'imaginaire qui l'entoure. Parce que Tarascon, ce n'est pas que un château, c'est aussi le foyer d'une créature de légende. La voici, la fameuse Tarasque. Un monstre absolument redoutable, un genre de mélange entre un dragon et un lion, qui, d'après la légende, vivait dans les marais juste à côté du Rhône. C'est cette bête qui a donné son nom à la ville et qui imprègne toute son identité.
Et la légende est belle. Elle raconte que ni les armes, ni les chevaliers n'arrivaient à vaincre la Tarasque. C'est une sainte, Sainte Marthe, qui aurait réussi à l'apprivoiser avec pour seules armes sa foi et sa douceur.
Et c'est ça, toute la magie de Tarascon. D'un côté, on a une forteresse bien réelle, faite de pierres et de batailles. Et de l'autre, une ville dont l'âme est complètement tissée de mythes et de légendes. Le château et le monstre sont devenus indissociables.
Pour finir, voyons comment le château a vécu sa toute dernière métamorphose pour devenir l'institution culturelle bien vivante qu'il est aujourd'hui.
Dès 1840, on reconnaît son importance et il est classé monument historique. Aujourd'hui, ces salles n'abritent plus de soldats ni de prisonniers, mais des œuvres d'art. Il est devenu un musée, un espace pour des expositions, bref, un cœur culturel qui bat pour toute la région.
Et c'est peut-être ça la plus grande leçon de Tarascon. Ce n'est pas un monument mort, figé dans son passé. Non, c'est un lieu qui a su s'adapter, se réinventer, traverser les siècles en changeant de rôle, mais sans jamais perdre son âme. On quitte donc Tarascon sur cette question. Forteresse, puis palais, puis prison, puis musée. L'histoire de ce château nous rappelle finalement qu'absolument rien n'est immuable et que même les plus solides des murs de pierre ne sont au fond que les pages d'un livre dont l'histoire continue encore et toujours de s'écrire.